VOA Afrique, les infos à Washington.
Eric Manirakiza avec vous, heureux de vous retrouver dans ce journal de 9h à Washington, 13h à Ouagadougou. D'abord, l'actualité en Afrique, au Burkina Faso, premier conseil des ministres à Ouagadougou depuis le coup d'État avorté du 17 septembre. La réunion a eu lieu ce vendredi à la primature au centre-ville, non pas au palais présidentiel comme de coutume. D'importantes mesures de sécurité ont été mises en place et tous les alentours de la primature sont quadrillés par des unités loyalistes déployées avec des blindés, selon l'AFP. Rappelons que c'est en plein conseil des ministres à la présidence, le 16 septembre, que des soldats du régiment de sécurité présidentielle RSP avaient fait irruption, prenant en otage le président Michel Kafando et le gouvernement et sonnant le départ du putsch, officiellement annoncé le lendemain avant le début du conseil de ce vendredi. Le président Kafando s'est longuement entretenu avec le premier ministre Isaac Zida et le président du Parlement de transition, M. Chérif Sy. Les autorités de la transition rétablie doivent notamment se prononcer sur l'avenir du RSP et le calendrier électoral. Initialement, des élections présidentielles et législatives étaient prévues le 11 octobre pour mettre fin à cette transition née de la chute en octobre 2014. Du président Blaise Compaoré après 27 ans à la tête du pays, renversé lors de manifestations de rue contre une modification de la constitution pour lui permettre de rester au pouvoir. Remaniement ministériel au Mali, le nombre des femmes au gouvernement passe de 3 à 5. Le point avec notre correspondant à Bamako, Kassim Traoré.
Le très contesté ministre de la Sécurité intérieure et de la Protection civile, le général Sada Samake, quitte le gouvernement. Il est remplacé par le colonel Salif Traoré, précédemment gouverneur de la région des Kayes. Le deuxième sortant est le ministre de la Justice. Son portefeuille a été confié à Sanogo Aminata Malé, une dame qui fait son entrée dans l'équipe gouvernementale. Marie-Madeleine Togo, l'une des nouvelles rentrantes, hérite du ministère de la Santé et de l'Hygiène publique, alors que le titulaire de ce département, Ousmane Kone, permet au ministre de l'Environnement et de l'Assainissement. Le dernier rentrant est Samuel Bana Diallo. Il s'occupera de l'aménagement du territoire. L'ancien patron de ce ministère gérera les questions de coopération internationale et de l'intégration africaine. Ablaye Diop est désormais ministre des Affaires étrangères, alors que Mohamed Ag Erlaf, qui a quitté le ministère de l'Environnement, est le nouveau ministre de la Décentralisation et de la Réforme de l'État. Bamako, Kassim Traoré, VOA Afrique.
Au Burundi, l'Église catholique appelle à un dialogue politique n'excluant personne. Mais pour l'analyse, Ismaël Diallo, le rapport de force doit changer de camp pour contraindre et forcer le pouvoir à Bujumbura à négocier avec l'opposition. Or, les sanctions économiques imposées par certains pays partenaires du Burundi ne vont pas dans l'immédiat affecter les dirigeants au plan personnel, souligne cet ancien onusien joint à Ouagadougou.
Tout le monde veut cela, mais est-ce que c'est une perte de temps? Pour le pouvoir, apparemment oui, puisque le pouvoir actuellement à Bujumbura dit qu'il ne négociera pas avec ceux qui se sont élevés contre lui, ont été comme des insurgés. Alors tant que le pouvoir estimera que la force est de son côté, il ne négociera pas, il ne discutera pas. Il faudra malheureusement attendre que le rapport de force change de camp pour qu'il soit contraint et forcé à négocier. Mais qu'est-ce que l'extérieur peut faire de plus rapide et de plus déterminant? C'est difficile à dire lorsque une intervention directe n'est pas à l'ordre du jour.
Et quels sont les risques du statu quo?
Les risques du statu quo, c'est hélas une détérioration accumulée de la situation là-bas, une souffrance accrue des personnes, et surtout les personnes démunies et les personnes à faible revenu, hélas. Et le ralentissement et la détérioration de la qualité des services sociaux, tout cela. Et cela ne contribuera pas à encourager la convivialité entre les Burundais et n'encouragera pas non plus à s'asseoir à une table de négociation. Il faudrait que le Saint-Esprit vienne visiter le pouvoir burundais pour qu'il accepte de négocier. Mais cela ne semble pas, peut-être que lui-même a déserté le camp du pouvoir à Bujumbura, hélas. Alors il faudrait s'attendre à des jours difficiles tant que le pouvoir s'entêtera à vouloir gouverner par la force et seulement par la force.
Quelle autre marge de manœuvre pour empêcher le pire des pires ?
C'est difficile à dire. Encore une fois, en dehors d'une intervention extérieure, il faudrait hélas que le peuple insurgé soit plus déterminant et il faudrait aussi que le pouvoir ait de moins en moins de puissance de feu. Il faudrait que certaines forces de sécurité et de l'ordre refusent de suivre bêtement et aveuglément le pouvoir, comme cela vient de se passer chez nous au Burkina.
C'est Ismaël Diallo, ancien représentant du haut commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme au Burundi. Et aujourd'hui, à 21h, temps universel, une émission spéciale sur le Burundi. Soyez nombreux à l'écoute. Au Cameroun, 5 militants associatifs et un journaliste arrêté le 15 septembre à Yaoundé ont enfin recouvré la liberté mercredi. Ils avaient organisé une conférence sur l'alternance politique dans le pays à l'occasion de la journée mondiale de la démocratie. Selon l'un des ex-détenus, le syndicaliste Jean-Marc Bikoko, porte-parole de la dynamique citoyenne, la justice camerounaise déclare poursuivre ses camarades et lui pour désobéissance aux ordres des autorités administratives et rébellion.
La Voix de l'Amérique en direct de Washington.
Ailleurs dans le monde musulman, endeuillé par la gigantesque bousculade qui a fait au moins 800 morts et davantage de blessés hier à Mina pendant le Hajj, le pèlerinage annuel de la Mecque en Arabie Saoudite. La deuxième tragédie en une semaine dans la ville sainte. Le point avec notre confrère Moussa Koïta Makalou, envoyé spécial de la radio Al-Bayaneh à la Mecque, au micro d'Idriss Fall.
L'incident a eu lieu aux alentours de 9h. 2 millions de pèlerins ont mis le cap sur Mina en vue de lapider le Satan. La bousculade a été provoquée par un accrochage entre un groupe qui partait vers la Jamarat et un petit groupe qui revenait dans le sens contraire.
Cette même année, il y avait eu un autre accident. Une grue est tombée aussi sur la grande mosquée de la Mecque.
En effet, le vendredi 11 septembre, après la prière de 16h, un grand vent a soufflé sur la Mecque, accompagné d'orages. Et suite à ce grand vent qui a déboulonné une grue qui était stationnée sur une grosse machine, cette grue est tombée à l'intérieur de la grande mosquée et cela a occasionné la mort de 107 personnes et blessé 263 pèlerins. Et à cette occasion, le roi de l'Arabie Saoudite, Sa Majesté Salman, a indemnisé les victimes, sans oublier de sanctionner l'entreprise qui est en charge de la construction des lieux saints, notamment le groupe Bin Laden.
Moussa Koïta Makalou, envoyé spécial de la radio Al-Bayaneh à la Mecque. Le pape François est maintenant à New York, deuxième étape de sa tournée américaine. À son programme aujourd'hui, un discours à l'Assemblée générale de l'ONU, il devrait appeler à lutter contre la pauvreté et le changement climatique. Puis un service interreligieux au musée du 11 septembre. Hier, le souverain pontife s'était adressé à une session conjointe du Congrès américain à Washington, où le président Barack Obama a reçu ce vendredi à la Maison Blanche son homologue chinois Xi Jinping en visite aux États-Unis depuis 3 jours. Leur discussion devrait porter entre autres sur la cybercriminalité et les intenses relations commerciales entre les deux pays. Crise migratoire, plusieurs leaders africains rejettent sur l'Europe la responsabilité de l'afflux des migrants d'Afrique en territoire européen. La pauvreté nourrit le terrorisme et l'Europe doit repenser sa politique vis-à-vis de l'Afrique, a déclaré le président tchadien Idriss Déby Itno à Niamey. Abondant dans le même sens, son homologue gabonais Ali Bongo a expliqué dans une interview au magazine Paris Match que les migrations continueront tant que le manque d'eau et d'électricité ne sera pas résolu. Mais Marc Ona, secrétaire exécutif de l'ONG gabonaise Brain Forest, ne partage pas cet avis. On l'écoute au micro de Timothée de Nangbay.
Les chefs d'État africains ne sont pas mieux placés pour tenir ce genre de discours. Qu'est-ce qui provoque la pauvreté en Afrique? Ce n'est pas parce que l'Afrique est pauvre que la pauvreté s'installe. C'est tout simplement parce que ces chefs d'État sont en train de piller l'Afrique. C'est eux qui appauvrissent l'Afrique. On ne peut pas comprendre qu'un continent qui attire tous les investisseurs pour venir chercher des ressources naturelles qui sont abondantes en Afrique puisse ainsi présenter autant de pauvreté que ce que nous sommes en train de vivre.
Voilà, c'est l'environnementaliste Marc Ona, secrétaire exécutif de l'ONG gabonaise Brain Forest. Le prochain journal, c'est dans 50 minutes avec Eric Manilakiza. Reste à l'écoute de VOA Afrique. Au revoir.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.